Semer, essaimer, s'aimer la solution de Cocagne avec Jean-Guy Henkel.
Bon, ben, bonjour à tous. Jean-Guy Henkel, donc on m'a demandé de venir raconter une histoire qui a commencé il y a 25 ans aujourd'hui, celle des jardins de Cocagne. Et donc je vais me permettre de vous parler un petit peu du passé, comment tout ça s'est structuré, le présent. Et puis, malgré le fait qu'on soit dans un salon dévolu à l'agroécologie et que beaucoup de gens ici doivent partager le fait que l'avenir a besoin d'agroécologie, on pourra parler aussi un petit peu d'avenir. Maintenant, si vous voulez, le propos que je vais tenir, c'est vraiment non pas un propos de philosophe ou de politique, bien que vous verrez, tout ça n'est pas dénué de politique et de philosophie, mais de gens pragmatiques qui ont essayé de faire quelque chose il y a quelques années. Alors, tout ça a démarré un peu plus au nord, en Franche-Comté, puisque je suis originaire de là-bas, au milieu des années 70. Donc, on était quelques-uns, on était plutôt des travailleurs sociaux, et on s'occupait de publics en grande difficulté. Et en l'occurrence, on a eu l'idée au milieu des années 70, d'ailleurs on n'est pas les seuls, il y en a un paquet d'autres qui ont fait ça dans toute la France, pour répondre à des nouvelles difficultés qui arrivaient, qu'est-ce qu'on pourrait développer comme activité qui permettrait à ces gens dont les entreprises ne veulent plus, éventuellement de retrouver un emploi, une dignité, une vie normale. Donc on a été les précurseurs, pionniers d'un mouvement qui s'appelle l'insertion par l'activité économique. C'est un peu barbare comme terme, c'est pas moi qui l'ai, c'est les pouvoirs publics, hein, vous savez qu'ils ont trouvé ce terme-là. Et puis, on se demandait à cette époque-là, puisqu'on sortait ce que les sociologues appellent les 30 glorieuses, c'est-à-dire 30 années où ça fonctionnait relativement bien, entre 1945 et 1975, même si c'était une période de plein emploi, il y avait un pays à reconstruire, tout allait pour le mieux. Et là, en l'occurrence, on a commencé à avoir des cassures au milieu des années 70 qui nous ont amené une autre vision des choses. Dans plein de régions en France, il y avait des gens qui ne s'en sortaient plus. Et dans les années 80-90, on a continué à faire ce travail de créer des entreprises pour arriver à la fin des années 90 à un constat. Alors, ce que je pourrais vous dire sur les premières initiatives d'entreprises qu'on a montées, c'est qu'en fait, moi, je venais de la sociologie et du travail social. Et j'étais entouré de copains qui c'était la même chose. Alors, on est des humanistes, c'est super sympa, sauf qu'on était des vrais branquignoles pour monter des entreprises, on n'y connaissait rien. Donc, en l'occurrence, il a fallu apprendre tout ce travail de création d'entreprise. Et ce qui fait que 15 ans plus tard, une dizaine d'années plus tard, quand on arrive à la fin des années 80, les pouvoirs publics se rendent compte que c'était pas une mauvaise solution de créer ces boîtes d'insertion dans toute la France. Parce que ce qu'il faut bien savoir en tant que contribuable, c'est quand vous misez 1 euro d'impôt pour donner des prestations à des gens, ils ne font que s'engluer encore un peu plus sans avoir véritablement de solution pour s'en sortir. Or, quand on donne 1 euro à une boîte d'insertion, tout l'intérêt, c'est qu'effectivement, elle recrée une richesse tout en permettant aux gens qui sont embauchés, ces personnes en difficulté, de retrouver un avenir et un emploi. Et ça coûte moins cher. Donc, ne serait-ce que pour des raisons économiques, c'était un assez bon système. Donc, arrive la fin des années 80. Pour les plus anciens qui sont peut-être dans cette salle, et ça va faire peut-être sourire les autres, c'est qu'à cette époque-là, on disait le jour où il y aura 1 million de chômeurs dans notre pays, ça va être la révolution. En fait, on a passé le premier million, puis après on a attaqué le deuxième million, puis ensuite le troisième million. Aujourd'hui, on considère qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent pas. Alors, il y a plusieurs chiffres, il y a les chiffres officiels du chômage. Mais j'ai une copine qui s'occupait de ça au ministère, qui m'a dit, après avoir passé 20 ans au ministère, qu'ils avaient changé 17 fois de mode de calcul. Donc, effectivement, le chômeur, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on considère qu'il y a entre 10 et 12 millions de personnes qui vivent en France à ras du seuil de pauvreté. Donc, développer des activités de cette nature ne sont pas stupides. Donc, l'idée qu'on a, dès fin des années 80, c'est que se met en place une nouvelle loi qui s'appelle le revenu minimum d'insertion, qui est devenu le RSA aujourd'hui, ce qui était une petite révolution dans le Landerneau, puisque des gens qui n'avaient rien pouvaient avoir 2000 francs à l'époque, puisqu'on n'était pas encore passé à l'euro. L'intérêt de cette loi, c'est qu'elle avait quelque chose de très intéressant, d'ailleurs toutes les lois devraient largement s'en inspirer, c'est qu'un an après sa mise en place, ils ont fait une grande évaluation nationale. Est-ce que cette loi était intelligente, oui ou non ? Alors, je ne suis pas là pour juger de ça, simplement ce que nous avons, nous, découvert, c'est qu'il y avait des tas de gens qui sont venus demander ce revenu minimum d'insertion, et qui étaient des gens qui n'étaient absolument pas connus de personne et d'aucun travailleur social. Et en particulier dans ma région, des agriculteurs en difficulté. Il s'avérait qu'il y avait 300-400 familles qui étaient des agriculteurs conventionnels en difficulté, qui ne s'en sortaient plus. Tout ce qu'ils pouvaient gagner en bossant toute la journée suffisait à peine pour rembourser les prêts qu'ils avaient faits auprès des banques. Donc ils étaient dans une situation de perdition, et pour qu'on puisse les aider, il fallait du temps. Donc nous, on a eu l'idée, grâce à ces différents publics qu'on avait notés, on a eu l'idée de faire une nouvelle forme d'entreprise qui prendrait la forme d'une exploitation maraîchère. Ça, c'était la première chose. Quant à produire des légumes, on s'est dit, on voudrait aussi que ces légumes ne soient pas n'importe quoi. On va être, donc on a été un peu précurseur en la matière, puisque on a décidé qu'on utiliserait uniquement l'agriculture biologique. Donc, l'idée qui commençait à germer dans nos têtes était la suivante. Comment on va pouvoir faire travailler des tas de gens qui n'ont pas d'emploi avec une très grande mixité ? On ne voulait pas que des agriculteurs en difficulté, on ne voulait pas que des gens qui sortent de tôle, on ne voulait pas que des gens qui sont privés d'emploi. On voulait des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et en même temps, on voulait aussi tout un panel, tout un aréopage de gens en difficulté. Parce que c'est très compliqué, les gens en difficulté. Il y a des gens qui ont des très bonnes formations et puis qui se pètent une grosse dépression et qui ne sont pas bien pendant quelques mois dans leur vie, à côté de gens qui sont lourdement désinsérés. Donc on met tout ça dans le même panier. Et c'est voilà. Nous, on prenait une mixité sociale. La société, elle est faite d'hommes et de femmes, elle est faite de jeunes et de moins jeunes, elle est faite de gens qui ont des niveaux de formation et des problématiques très différentes, et nous, on voulait que ce jardin de cocagne, cette exploitation maraîchère en bio, ressemble à ça. Donc, on avait déjà ce vecteur-là. Ensuite, il s'est posé la question de la commercialisation. Et en l'occurrence, cette commercialisation était très compliquée, parce qu'on ne savait pas comment on allait vendre nos légumes, etc. Et là, on a rencontré des gens, un ingénieur agro en particulier, qui m'a parlé d'une initiative qui était née au milieu des années 60 au Japon, puisque c'est des coopératives japonaises qui ont été les premiers à inventer ces systèmes de commercialisation sous forme de paniers hebdomadaires. Aujourd'hui, il y a des AMAP, les grandes distribs, tout le monde le fait, etc. Mais quand on a démarré fin des années 80, début des années 90, personne ne faisait ça dans ce pays. Donc l'idée, vous le voyez, c'était bien de faire un projet économique, une entreprise qui devait produire, qui devait embaucher, qui devait vendre. Donc c'était une aventure économique, c'était une aventure sociale très particulière, de laisser le plus de place possible à des gens qui n'avaient pas d'emploi. Et puis en même temps, c'était très ancré sur un territoire, parce que l'idée, c'était que ces gens qui produisent des légumes bio puissent trouver ce qu'on appelle des adhérents consommateurs ou des consommateurs sur leur territoire qui acceptent l'idée folle d'acheter des paniers de légumes biologiques tous les semaines, l'engagement à l'année, dont ils ne choisissent pas le contenu et dont on fixait le prix et le lieu de livraison. Donc beaucoup de gens me disaient, ton truc, ça ne pourra jamais marcher. Donc en l'occurrence, on part avec cette idée. Et en l'occurrence, une centaine de personnes qu'on a contactées, plutôt militants de la ville de Besançon, il y avait des enseignants, il y avait des gens de l'hôpital du milieu médical, il y avait des tas de gens qui s'intéressaient à toute cette formule-là, qu'on dit banco, nous ça nous intéresse, on a envie de consommer autrement. Alors, vous savez, quand on parle de ce type de projet, il faut toujours se dire, le bon projet, il faut qu'il arrive au bon moment puis qu'il soit porté par les bonnes personnes. Sinon, il a toujours beaucoup de mal à aboutir. Il y a des bons projets qui sont arrivés trop tôt ou trop tard. où ils n'étaient pas portés par les gens qu'il fallait, enfin, etc. Il y a toujours une composante qui ne va pas. Et là, la composante agricole qui était très favorable, je ne devrais pas m'exprimer ainsi, mais qui était très favorable pour nous, c'est que beaucoup de Français sont en train de se poser des questions sur, sur leur alimentation. C'était la période de la vache folle, du poulet à la dioxine, du mouton qu'à la tremblote. Enfin, ça n'arrêtait pas. Il y avait crise agricole sur crise agricole. Et à un moment donné, beaucoup de gens, logiquement, se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette industrialisation de l'alimentation qui est en train de totalement nous déborder et qui, à l'occurrence, on ne peut plus faire confiance ?» Donc, de retrouver ce lien du local, ce lien du biologique, puis en plus d'être avec un lien social, puisqu'on aidait des gens de son secteur à reprendre pied dans leur vie et à avoir un emploi, a assez bien fonctionné. Et contrairement à ce qu'on m'avait annoncé avant dans les grandes écoles de commerce, c'est que ces gens-là ont accepté toutes ces contraintes de ne pas choisir les légumes. Alors évidemment, on leur amène une très grande diversité de légumes, 5-6 par semaine, plus de 80 sur l'année. Donc si vous êtes des consommateurs classiques de légumes de saison, vous ne serez pas choqué par un panier d'un jardin de cocaïne, puisque ça correspond exactement à ce que vous feriez dans votre jardin à cette période-là, plus éventuellement ce qu'on peut faire sous serre, etc. Donc ça, ça a été cette première formule, et à vrai dire, ça a été un des premiers projets qu'on a catalogué après dans beaucoup de bouquins, comme un des premiers projets dits de développement durable. Parce que et on affichait officiellement le fait de faire de l'économique, du social et de l'écologique en même temps. Ce qui est très compliqué. Parce que si vous voulez monter une entreprise et gagner beaucoup d'argent, c'est très simple. Faites l'impasse sur le social et l'écologique. Donc, à un moment donné, ces trois sciences, social, écologie, économie, moi, je les appelle les sœurs ennemies, c'est-à-dire qu'elles vivent ensemble. Enfin, il faudrait les faire vivre ensemble, mais elles ne peuvent pas se supporter. Donc, il faut apprendre à gérer les tensions nécessaires toute la journée. Quand je vous donne un petit exemple. L'autre jour, j'étais dans un de nos jardins, puisque je vais vous raconter la suite. Il y en a maintenant plein dans toute la France et on est en train de se développer aussi un petit peu à l'international. Et les gens, les travailleurs du jardin étaient en train de discuter d'un sujet particulier. Faut-il mettre du paillage ? Du paillage, c'est des toiles qu'on met sur la terre. Alors, celui qui a la vision écologique des choses dit « Ah non, vous allez générer du plastique, et ces montagnes de plastique, qu'est-ce qu'on en fera après ?» Mais celui qui travaille la terre dit « Oui, mais ce sale boulot de désherbage sur des hectares que je suis obligé de faire à la main en permanence, ben là, en l'occurrence, je n'ai plus à faire ce travail-là parce que les mauvaises herbes, elles restent en dessous du plastique. Il y a juste le légume qui dépasse. » Et puis après, on s'aperçoit que même d'un point de vue agronomique, arrosage, enfin, je vous en passe, c'est qu'à un moment donné, c'est une meilleure affaire de le faire comme ça. Mais vous voyez, c'est un choix difficile. Si je fais un choix uniquement environnemental, je ne génère pas de plastique, je n'en mets pas. Si je fais un choix social, j'en mets. Si je fais un choix économique, j'en mets. Donc, ce que j'appelle la gestion des tensions, c'est ça. Vous êtes à la tête d'une entreprise où toute la journée, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça va générer socialement ? Qu'est-ce que ça va générer écologiquement ? Qu'est-ce que ça va générer économiquement ? Eh bien, c'est cette tension permanente qu'il faut apprendre à faire. Bref. Cette première idée de jardin de cocagne à Besançon en 91, nous, on n'avait pas du tout l'intention d'en coller n'importe où ailleurs. On n'y avait même pas pensé. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'y avait pas pensé. Mais il y avait un vrai succès auprès des citoyens de la ville qui trouvaient que c'était bien ces paniers de légumes. Et puis, ça avait aussi un vrai succès social parce que beaucoup de gens venaient en disant « J'ai pas de solution, j'ai pas d'emploi, je m'en sors plus, etc. » Et ce jardin de cocagne est un magnifique truc où moi, j'ai envie de travailler. Et là, on touchait à un autre sujet qui est extrêmement important, mais qu'on connaissait bien. Et c'était pour ça qu'on avait fait ce travail-là. C'est le travail de la terre. Le travail de la terre a ceci d'incroyable, c'est qu'il restructure et il vous fait un bien fou psychologiquement et physiquement. Attention, je ne veux pas vous raconter de salade, c'est le cas de le dire. C'est dur. La terre est basse. Il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. Sous les serres, on crève de chaleur. Mais ce travail très particulier qui est de prendre une petite graine, de faire un plant, de le peaufiner et bichonner ce petit légume pour l'amener jusqu'à un panier puis à son client et pouvoir lui donner même des recettes de cuisine à quelque chose de très valorisant. D'ailleurs, à ce titre-là, si c'était pas vrai, et ça ne marche pas que pour des gens qui vont pas bien, ça va pour tout le monde. Vous avez vu les cadres sup, combien ils vont bouffer de pognon par an pour aller dans des grandes enseignes aujourd'hui pour pouvoir planter 3 tomates et 2 salades. Ça coûterait 1000 fois moins cher de les acheter directement. Non, ils ont ce plaisir à toucher la terre, à planter les végétaux, des fleurs, des légumes, etc. Donc, pour toutes ces raisons sociales, écologiques, environnementales, à un moment donné, il y a eu une... Salut Isabelle. Elle connaît mon histoire par cœur, elle s'en va. Donc, il y a d'autres personnes qui ont entendu parler de ça. Et pourquoi on en a entendu parler ? Ben parce qu'à un moment donné, il y a eu une grosse couverture médiatique de cette petite opération. Parce qu'on n'était rien du tout, c'était très modeste. C'était quelques serres d'occasion, un mobil-home au milieu des champs qui nous servait de bureau, tout un aéropage d'hommes et de femmes, tous plus dans la merde les uns que les autres, et tout ce beau monde avec des encadrants qui étaient des vrais maraîchers pros qui nous ont aidés à produire des premiers légumes et puis à satisfaire ces premiers adhérents consommateurs. Donc, première petite révolution dans notre mobil-home avec notre vieux téléphone, c'est comme on passe aux 20h de TF1, vous vous rendez compte, ce machin dont tout le monde se foutait, qui passe chez PPDA, à l'époque. 7-8 millions de personnes qui regardent ça, c'était les chiffres à l'époque quand, de ce 20h de TF1. Là. Donc il y a plein de gens qui entendent parler de ça dans toute la France, et plein de gens dans les jours qui viennent et les mois qui viennent nous appellent en disant « Mais dites donc, c'est bien ce que vous avez fait. Nous, on aimerait bien... Je suis à Bayonne, je suis à Vannes, je suis à Lyon, je suis pas où. Et on voudrait bien faire la même chose. » Donc, on a commencé à recevoir des gens qui avaient envie de lancer un petit peu la même dynamique. Et là, on rentre dans une deuxième tranche de l'histoire. Parce que c'est devenu un peu ma spécialité, mais... J'ai compris assez vite que vous pouviez être un magnifique dirigeant, vous avez une idée géniale, vous la montez, ça marche. On va vous dire tout de suite, il faut changer d'échelle, vas-y, montre-en d'autres, etc. Mais faire ça, c'est un autre métier. Parce que chaque fois que j'arrivais dans un nouveau territoire, on me disait, ce que tu as fait à Besançon, c'est vachement bien. Mais nous, c'est différent ici. Et donc, il va falloir que tu t'adaptes. Puis, il va falloir qu'on fasse des choses différentes. Donc, notre vocation, à un moment donné, on a été très généreux dans un premier temps. On l'est toujours, mais on a été particulièrement généreux. C'est-à-dire que tous ceux qui voulaient tout savoir sur ce jardin, on leur donnait tout. Les chiffres, la technique, ce qu'on avait appris, etc., etc. On était dans un mode de générosité, de dissémination, on donnait tout. Mais en fait, c'est un piège. Parce que si vous faites ça, il y a des tas de gens qui s'empoignent ce truc-là et qui vont monter leur truc, donc vous dites « génial ». Sauf que chaque personne que je rencontrais, il y a un côté du jardin de Cocagne qu'on avait monté qui ne leur plaisait pas. Donc certains me disaient « le côté social, ça nous emmerde. Nous, on voudrait monter un vrai business, une vraie entreprise, tu ne nous embêtes pas avec tes gens en difficulté ». Une autre de cette région, une dame dont je me souviens très bien, me disait « Moi, Cocagne, ça m'intéresse particulièrement, mais nous, on ne sera pas en bio. Parce que j'ai recruté un maraîcher qui est un vrai conventionnel, qui me dit « Le bio, c'est de la connerie, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. » Donc voilà. Un autre m'expliquait qu'ils avaient commencé à faire des premiers paniers pour des adhérents consommateurs, et que ces adhérents consommateurs, qui sont des gens comme vous et moi, qui vivent, qui ne sont pas là pendant une période parce qu'ils partent en voyage ou ils passent son machin. Donc ils disent bah, « telle semaine, mon panier, sera, je n'en veux pas parce que je ne serai pas là, etc. etc. » Ça énervait un certain nombre de futurs porteurs de projets qui m'expliquaient bah, « écoute, on irait à la centrale du coin livrer tous nos légumes, on en ferait beaucoup moins, on s'emmerderait beaucoup moins. Puis en plus, il y a Madame Michu qui est toujours en train de me dire qu'elle n'aime pas les choux, donc elle ne veut pas de choux dans son panier, etc., etc. » Parce que chez nous, le principe, vous l'avez compris, panier imposé, etc. Vous n'aimez pas les choux, tant pis pour vous, vous donnez vos choux à vos voisins, votre copain, votre copine, vous vous démerdez. Mais en tous les cas, vous faites des échanges, mais nous, on ne va pas faire un spécial panier pour tel ou tel. Donc, On voit bien qu'à un moment donné, tous ces porteurs de projets, c'est génial, sauf que on s'est vite rassemblés. Alors, on s'est rassemblés pour deux raisons. Parce que je sentais que ce qu'on avait fait avait du sens et ce qu'on était en train d'en faire était en train de le perdre. Donc, quand on est dans cette situation-là, on fait quoi ? C'est très simple. On se met tous autour d'une table et on discute. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis en plus, on commençait à être fatigué à Besançon parce que on était devenu un zoo à visiter, il y avait 300 personnes qui passaient par an, donc il y en avait quasi tous les jours, quoi. Donc ça commençait à nous peser un petit peu, et on n'avait pas le temps, parce qu'on avait quand même beaucoup de travail pour faire tourner cette exploitation maraîchère. Donc on s'est rassemblés en 1993 à Besançon, sur une journée, on avait loué un truc, une belle salle, et puis et donc il y avait plus de 200 personnes qui étaient là, et là on a fixé une ligne de conduite ensemble. On s'est dit, si on doit monter des jardins de cocagne, qu'est-ce qui est important pour nous tous ? Donc beaucoup de gens, dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, sont très friands, et ils ont raison, de leur liberté d'agir, de leur liberté d'entreprendre. Mais si je vous laisse une totale liberté d'entreprendre, comment je peux développer un concept ? Voilà. Donc on s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes qu'on a fixés dans une charte. Ce principe, c'est un jardin de cocagne doit obligatoirement faire travailler des publics en difficulté recrutés sur son territoire, et pas uniquement les faire travailler, mais aussi les accompagner. Beaucoup de gens qui viennent dans nos jardins sont des gens qui, bien entendu, n'ont pas d'emploi, mais en même temps rencontrent des problèmes de surendettement, de logement, d'addiction, de santé, etc. Et on se doit de les aider à aller mieux sur tout ce là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'on a entériné une bonne fois pour toutes, on serait agriculture biologique et rien d'autre. Donc, on ne peut pas être cocagne si on n'est pas en agriculture biologique. À la question du développement durable que je posais tout à l'heure, c'est un des rares principes, l'agriculture biologique, qui on répond oui à tout. Est-ce que économiquement, c'est plus intéressant ? Oui. Est-ce que pour la santé de nos adhérents consommateurs, c'est plus intéressant ? Oui. Est-ce que des gens qui sont en difficulté, si en plus il faut que je fasse pousser des légumes avec des produits, des pesticides, des insecticides sous serre, alors qu'ils ont déjà assez d'emmerdement, je ne vais pas encore les empoisonner encore en plus. Donc c'est un respect du personnel. Donc c'est respecter la terre, respecter le personnel, respecter les consommateurs, ça gagne surtout. Et en plus, c'est des nouvelles filières qui intéressent de plus en plus de monde, parce qu'effectivement, il y a peu de producteurs de légumes bio aujourd'hui qui sont obligés de jeter leurs légumes. Il y a même peut-être carence, puisque moi je viens de la région parisienne, 95% des légumes bio de la région parisienne, ils sont importés d'un autre pays parce qu'on n'est pas foutu de les produire ici. Donc il y a encore énormément de marge pour le faire. Donc, à partir de cette idée de 1993, on crée donc le concept jardin de cocagne, et puis, on ne savait pas aussi répondre à une autre question. Est-ce que cet engouement du début des années 90 allait durer un an, deux ans ? Est-ce que vous êtes un effet de mode et puis on va vous oublier très vite ? 10 ans après, il y avait toujours autant de demandes. D'ailleurs, 25 ans après, on doit traiter, dans notre réseau national, plus de 150 demandes par an. Bonjour, je veux monter un jardin de cocagne. Donc, on voit bien là qu'il y a une dynamique profonde qu'il faut gérer. 152, je vous le dis, mais je reviendrai tout à l'heure, 150 demandes, on en monte 4 ou 5 par an. Parce qu'on a décidé aussi que c'était très compliqué, la démarche sociale, la démarche écologique, la démarche économique, qu'il faut que toutes les parties prenantes fonctionnent avec nous. Les parties prenantes, il faut trouver que les citoyens nous accueillent bien, il faut que les agriculteurs soient d'accord sur le territoire, il faut qu'on se mette d'accord avec des pouvoirs publics toujours un peu compliqués pour avoir quelques lignes financières dans d'insertion, etc., etc. Donc ça prend du temps. Donc ceux qui veulent aller à 100 à l'heure monter un truc en 5 minutes, on ne sait pas faire. On sait que nous, quand on met un an à deux ans d'études sérieuses, on arrive à faire quelque chose de sérieux. Et je pense qu'on a raison parce qu'au bout de 25 ans, on n'a quasi pas de jardin. Il y en a très peu qui sont morts en cours de route. Il y en a quelques-uns. Mais essentiellement plus dû à des gestions humaines. Où, vous savez, parce qu'on est souvent dans un cadre associatif. Et le cadre associatif a ceci d'extraordinaire. C'est que trois personnes peuvent faire des choses extraordinaires tous ensemble. Mais en même temps, s'ils commencent à s'engueuler et puis à plus supporter, ça devient tout de suite une catastrophe humaine, donc une catastrophe économique. Mais on avait une vraie solidité, puisque effectivement ce mode autour de « je fais du social, je fais de l'écologique, de la bio, je fais des adhérents consommateurs, je crée ce mouvement-là », et on s'est développé toutes les années 90 jusqu'à 2000 comme ça. Il s'est créé à peu près une cinquantaine de structures, dont beaucoup étaient de cette région. Un engouement particulier est très important, et Rhône-Alpes d'ailleurs, alors maintenant c'est Auvergne et Rhône-Alpes, mais Rhône-Alpes était une très grosse région d'implantation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de villes du coin ou de départements qui n'ont pas voulu à un moment donné, donc ça a créé une dynamique, et si tous nos amis des 22 jardins de cocagne qu'il y a sur les deux régions sont rassemblés sur un stand là-bas, c'est que depuis cette époque-là, ils ont créé un vrai engouement. Alors, quand on est arrivé à l'année 2000, pas parce que c'était l'année 2000, on s'est retourné un petit peu, puis on s'est dit, ouais, ben c'est sympathique de monter des structures dans toute la France, mais comment elles en rencontrent des tas de difficultés, comme n'importe quelle entreprise que vous créez. Parce que monter une boîte, c'est des difficultés particulières en méthode, mais les faire vivre, dès le lendemain, vous avez des problèmes techniques, des problèmes de matériel, des problèmes humains, des problèmes de fric, des problèmes de banque, des problèmes de fiscalité, etc. Donc on s'est doté d'un réseau national. Quand je dis « on », c'est ce que j'ai oublié de dire qui est très important, c'est qu'en même temps qu'on a amené cette aventure économique, on a essayé de construire aussi une aventure humaine. Qui est le patron de tout ce bazar ? C'est les jardins de cocagne qui votent pour leurs représentants au niveau national. Donc il y a un mode de gouvernance qui a été institué, où à un moment donné, quand quelqu'un n'est pas content à Cocagne, on lui dit « mais mon petit pote, tu te fais élire et puis tu changes de politique ». Si la plupart des gens te suivent, ben ça va marcher. Si ça ne te suit pas, c'est que voilà, c'est un principe très démocratique. Donc en l'occurrence, on a toutes les premiers, une vingtaine de personnes qui étaient les premiers initiateurs de tous ces jardins, dont beaucoup de Rhône-Alpes, se sont constitués en une association nationale, un réseau. Et ce réseau, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Première chose, il doit continuer à aider, à accompagner des porteurs de projets. Donc, comme je vous le disais, 150 par an. Et donc, on a des gens dans notre équipe qui ne font que ça, accompagner les porteurs de projets, les aider. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que, comme on a fait aussi un autre principe qui est très important dans toutes les organisations, alors c'est un mot barbare, mais c'est ce qu'on appelle la mutualisation. En clair, quand un Besançon invente un truc, il le donne aux autres. Mais quand Lyon invente un truc, il le donne aux autres. Et quand Grenoble invente un truc, il le donne aux autres. C'est un principe de mutualisation. Et chaque fois que j'innove ou que je trouve quelque chose de très intéressant, que ce soit social, technique, financier, peu importe, je le donne à la... Alors, c'est facile à dire dans des tribunes, c'est facile à dire partout, c'est facile à dire, tous les gens parlent de ça, mais quand vous êtes dans du vrai fonctionnement humain, c'est toujours très compliqué de dire à quelqu'un qui a inventé quelque chose, maintenant, mon petit pote, je t'ai tout donné, mais c'est à toi de rendre. Voilà. Donc, ce principe de mutualisation, on a essayé de le mettre en place. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qu'on a inventé de bien, on l'a écrit, on l'a mis en procédure, on l'a mis en bouquin, on l'a etc., pour que ceux qui arrivent aujourd'hui puissent bénéficier de tout ça. Ils ne sont pas obligés, et c'est ça qui tue dans beaucoup d'organisations qui se développent, c'est que vous avez l'impression qu'il n'y a jamais d'intelligence qui s'empile. On ne capitalise pas son intelligence. On a même l'impression que certaines organisations, plus elles vieillissent, plus elles deviennent cons. Ce qui n'est pas normal, puisqu'elles ont plus d'expérience. Donc comment, à un moment donné, je peux capitaliser toute cette expérience dans un mode de gouvernance démocratique ? Donc, une première des gens chez nous ont fait l'essaimeur, ils continuent à traîner, donc c'est pour ça que ça s'appelait semer, on a semé une graine, essaimer. Alors essaimer, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, on continue de monter des projets partout, et puis donc aujourd'hui, là je rentre du Japon, alors je vous ai dit tout à l'heure, c'est les Japonais qui ont inventé ce système-là. Vous savez pas quoi ? Ils l'ont oublié. Donc, aujourd'hui, on remonte des structures avec un réseau japonais qui s'appelle Social Firm Japan, qui, à un moment donné, fait travailler du monde handicapé, des chômeurs, etc., toujours sur le même principe. Et puis, on a le dernier jardin qu'on a ouvert, il est à Bucarest. Et donc, c'est des Roumains qui ont repris cette idée-là, avec toutes les difficultés des enfants et des ados qui sont dans la rue là-bas, comment on peut leur trouver une activité décente. Donc vous voyez, l'idée sociale va se conjuguer un peu de manière différente d'un pays à l'autre. Mais cette idée, à un moment donné, nous, on adore recevoir, la semaine passée, c'était des Québécois, une très grosse association du Québec qui va implanter un petit peu cette idée. Donc, ce service SMH fonctionne à fond. Deuxième service, Véronique, qui est là, qui fait partie de mon équipe, elle s'occupe de ce qu'on appelle l'animation. C'est-à-dire qu'elle n'arrête pas avec ses équipes, avec ses collaborateurs, très triste, de sillonner la France pour donner... répondre à peu près à toutes les questions que se pose un directeur de jardin de cocagne. Parce que c'est quand même un directeur d'une petite entreprise de 25-30 personnes qui manie pas mal d'argent, etc. Et à un moment donné, il a des problèmes techniques. On a des ingénieurs agro qui sont là pour l'aider. Il a des problèmes financiers. On a des gens très bien formés qui sortent de grandes écoles qui viennent les aider aussi, etc. etc. Donc on a étoffé tout un... Voilà. La troisième chose qu'on a fait, d'ailleurs, c'est pas, je devrais pas le dire en trois, j'aurais dû le dire en un, parce que c'est la première chose qu'on a fait, en vrai. C'est toujours ce problème de l'intelligence des organisations. On a créé un centre de formation. On a eu tout de suite l'envie, tout ce qu'on savait, de le transmettre. Donc on a fait tous des cycles de formation pour que les dirigeants, les encadrants techniques, les travailleurs sociaux, enfin tous ceux qui constituent nos équipes, les personnes ouvrières, maraîchères, etc., puissent bénéficier de tout ce qu'avaient appris les autres. Et cet organisme fonctionne de mieux en mieux. Donc, vous voyez, première séquence, on se développe pendant une dizaine d'années. On se structure en fédération nationale, en réseau national à partir de 2000. On arrive en 2010. Et là, en l'occurrence, on a encore doublé nos objectifs. On n'est plus 50 jardins, on est 100. Ça commence à représenter à peu près... aujourd'hui, les chiffres, c'est 130 structures, 105 jardins de cocagne, et ça va représenter, je lisais l'évaluation tout à l'heure, un peu plus de 5500 personnes qui travaillent dans ces structures dans toute la France. Quand je dis 5500 personnes, il y en a à peu près 4500 qui sont des gens qui sont recrutés localement, non professionnels et qui n'ont aucune compétence particulière, et les autres qui sont justement le contraire, des gens qui amènent une grande compétence, des encadrants maraîchers, des dirigeants, etc., etc. Donc tout aurait pu aller pour le meilleur des mondes et puis continuer notre petit développement comme ça. Mais il s'avère qu'à partir de 2010, il y a... Alors on appelle ça, les sociologues appellent des signaux faibles. Vous savez, dans nos sociétés... Il y a des choses qui se transforment tout doucement qu'on ne voit pas venir. Et nous, on voit que notre système, je pense que c'est un système d'avenir. C'est difficile de dire qu'on n'a pas besoin d'écologie et de social dans l'avenir, vu qu'il y a tellement de pauvreté et tellement de difficultés. Mais quand même, notre écosystème est en train de s'écrouler. Le nôtre. Pourquoi ? Parce que nous, on avait deux manières de fonctionner qui nous font vivre. Les pouvoirs publics, on leur dit, si tu nous donnes du fric, on va sortir de la panade beaucoup de gens, et bien entendu avec des évaluations. Donc, et les pouvoirs publics ont toujours trouvé ça intéressant, sauf qu'aujourd'hui, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont plus assez d'argent. Donc partout, on nous dit, c'est génial ce que vous faites, mais on n'a plus de fric. Et puis la deuxième chose, c'est qu'avant, on était sur un business très particulier, on vendait des paniers de légumes. Aujourd'hui, tout le monde fait des paniers de légumes. L'agriculture est rentrée en masse là-dedans, etc. La grande distrib, etc. On ne s'y retrouve plus. Il y a des gens qui montent un business dans Rungis, j'en connais quelques-uns. Voilà, ils ont un ordinateur, ils font venir les légumes bio ou pas bio les moins chers du monde, qui arrivent sur la plateforme, ils font des paniers, puis ils vous distribuent ça sur Paris ou sur Lyon ou sur je ne sais pas quoi, voilà, dans les grandes villes. Ça n'a pas grand-chose de local, parfois c'est bio, etc. Mais voilà, il y a tout ça qui est derrière. Quand c'est un agriculteur qui monte son AMAP, c'est génial, parce que c'est déjà plus du local. Donc nous, on a été télescopés par ça, donc il a fallu trouver, rebondir, qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir. Donc déjà, mieux communiquer, parce que des paniers bio, vous en trouverez, des paniers locaux, vous en trouverez, mais des paniers qui soient bio, locaux et solidaires, pour le moment, c'est que reste notre particularité. Donc, encore faut-il bien l'expliquer au consommateur que le jour où il veut passer à un autre mode de consommation, il puisse parfaitement comprendre et parfaitement, en tout état de cause, savoir ce qu'il est en train d'acheter comme panier. Et donc, en l'occurrence, là, on s'est dit, peu importe, on commence à être un peu embêté à moins de fonds publics, plus de concurrence panier. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc là, on a intensifié un certain nombre de choses. Et en particulier, on a mis en place une vraie fonction. Alors, je viens de l'économie sociale et solidaire. Et ce que je regrette beaucoup dans cette économie, c'est qu'elle n'est très peu de ce qu'on appelle dans l'économie classique de recherche et développement. Ça veut dire de comment je pense l'avenir. Nous, on a des bureaux sur le plateau de Saclay, qui est la Silicon Valley parisienne, là-bas, où ils sont en train de mettre Sciences Po, HEC, tout CAC 40, c'est en train de s'installer avec leur recherche et développement. Et en fait, on s'aperçoit qu'une boîte qui est en face de chez nous, qui s'appelle Danone, il y a 250 personnes qui travaillent là pour essayer d'imaginer quels seront les produits qu'il faudra vendre du yaourt dans 20 ou 30 ans. Eh bien, nous, on réfléchit à rien. On fonce dans l'avenir et on y va. Donc, en l'occurrence, nous, on s'est dit, arrêtons un peu. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de tous ces jardins et se diversifier ? Et donc là, on a travaillé tous ensemble pour identifier des axes de recherche et développement. Et c'est pour ça que dans cette région, pas très loin d'ici, à Communay, ils ont ouvert une conserverie. C'est un des premiers grands choses qu'on a fait. C'est-à-dire que plutôt que de vendre des paniers de légumes, comment on peut transformer ces légumes en plats, ou voire même simplement éplucher, etc. Il y a toute catégorie de travail là-dessus. Et ces conserveries amènent beaucoup plus de plus-value dans tout ça. On est en train de travailler en région parisienne sur un nouveau concept. On est les seuls à faire ça en France. Ça s'appelle Fleurs de Cocagne. Essentiellement des femmes en difficulté sont formées au métier de fleuriste, cultivent des fleurs en bio, les confectionnent en bouquets et les vendent. Alors quand on sait, elles les vendent sur le marché. Plusieurs choses, donc tout le monde s'est un peu moqué de nous quand on a commencé à faire des fleurs en bio, parce qu'en France, vous savez, quand vous bouffez pas un truc, vous dites, ça sert à quoi qu'ils soient en bio ? Ben, ça sert à respecter la terre. Si je donne une terre qui a été cultivée en bio, j'y ai fait n'importe quoi, 20 ans après, je donne une terre qui est enrichie. C'est comme si j'avais fait du capital que je donne à mes enfants. Alors que si j'ai traité à mort des tas de trucs, je lui donne une terre qui est totalement morte. Donc, en l'occurrence, Fleur de Cocagne avait ça. Et on s'est aperçu de plusieurs choses. D'abord, c'est un magnifique vecteur où beaucoup de femmes en difficulté adorent venir se former à ce métier-là. Parce que quand on est une femme en difficulté, et particulièrement en région parisienne ou dans les grandes villes, il y a encore plus de discrimination que pour les mecs. Parce qu'on vous proposera deux choses, c'est du ménage ou du service comme activité. Pas grand-chose d'autre quand vous n'avez pas de qualification. Et en l'occurrence, se former au métier de la fleur est plus intéressant. La deuxième chose aussi, c'est que le marché de la fleur aujourd'hui, quand à la Saint-Valentin, il y a quelques jours, tout le monde a couru pour acheter ces roses, elles viennent d'où ? Elles viennent du Kenya, elles viennent du Zimbabwe. Elles sont produites dans des conditions sociales et environnementales, mais déplorables. Et qu'en l'occurrence, on finit par avoir... Alors j'ai suivi un peu tout le truc. Il y a des gens qui crèvent là-bas parce qu'ils travaillent sous des serres à 60 degrés. Avec des produits de traitement, ils pompent toute l'eau du lac, il n'y a plus de poissons. Donc vous travaillez là-bas pour eux, vous crevez de cancer avec des pesticides. Vous ne travaillez pas pour eux, vous crevez parce que vous ne pouvez plus pêcher, parce qu'il y a plus de, l'eau a été rejetée avec tous ces pesticides dans les lacs. Donc en l'occurrence, là c'est tout à fait ça. Quand 90% des fleurs qui sont distribuées aujourd'hui dans le monde est distribué en France, c'est ça leur sale histoire. Elles sont produites dans des conditions sociales. À tel point qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans de suite, à la Saint-Valentin, la une des journaux, c'est pas oublier, n'oubliez pas d'offrir des fleurs, c'est le scandale des fleurs ou le scandale des roses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dévoile tous ces côtés-là. Donc, en l'occurrence, là, on est en train de créer une petite nouvelle filière, on croit beaucoup. Et en fait, on a découvert plein de trucs. Et en particulier, qu'une fleur qui n'est pas traitée, qu'une fleur qui n'a pas de choc thermique et ni de choc chimique, elle tient beaucoup mieux. Elles tiennent 15 jours, 3 semaines en bouquet, alors que les autres, elles s'effondrent au bout de 3 jours, parce que c'est comme si vous coupiez la perfusion. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un autre axe qu'on est en train de faire. Il y a aussi d'autres, je ne veux pas tous vous les présenter, mais c'est pour vous dire qu'on a développé toute une série d'activités. Et puis je finirai aussi sur un qui est très important, sur lequel on compte beaucoup. Ça se passe en Bretagne, à Dinan. Ça s'appelle les Champs Gourmands. Il ne s'agit pas là d'avoir des adhérents qui livrent des paniers, mais de faire des très grosses quantités de légumes biologiques pour la restauration scolaire. Parce que nos enfants, quand ils vont dans les écoles aujourd'hui, et c'est un enjeu dans pratiquement tous les départements et toutes les régions aujourd'hui, tout le monde voudrait de la bio dans les cantines scolaires. Sauf que le petit maraîcher bio n'est absolument pas équipé pour amener les quantités qu'il faudrait là. Donc on a monté là une grosse exploitation. Il y a deux solutions, si vous voulez. Soit il faut penser des exploitations à grande échelle qui sont capables de produire, et nous on l'a fait toujours sur le même principe, bio, boîte insertion, etc., etc. Et ils sont en train de livrer donc une grande partie de la Bretagne en restauration scolaire et restauration collective. Et puis l'idée à un moment donné, c'est que si ça marche là-bas comme on l'a fait pour les jardins de cocagne, comme on le fera peut-être pour les fleurs, c'est ce principe comme on fonctionne ensemble, de manière démocratique, dans une organisation intelligente, avec un centre de formation et tout ça, ça donne la possibilité, si ce truc-là marche là-bas, d'expliquer aux autres comment le faire et à un moment donné de pouvoir le dupliquer. Donc voilà, j'ai à peu près bouffé tout le temps. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire quand on m'a demandé comment vous voulez appeler ça. On avait écrit un article qui s'appelait « Semer ». Donc on a semé une petite graine il y a longtemps. Et s'aimer, ben voilà, elle a largement diffusé sur ce territoire et puis largement autour de ce territoire. Et puis on avait rajouté s'aimer. Alors s'aimer, pas parce que on est des babacools qui pensent qu'à un moment donné tout le monde s'aime et c'est génial, etc. C'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment donné, quand on est dans une relation humaine de respect où on laisse la place à tout le monde, à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre de la générosité, et c'est ce s'aimer-là qu'on avait envie de mettre en avant. Voilà.
On va passer à la période des questions. Donc, j'ai oublié de préalablement à vous dire que c'était enregistré et que vous pouvez retrouver l'enregistrement au stand du CRA qui est à peu près au niveau de l'accueil, en fait, de Prime Vert. Donc, est-ce que certaines personnes ont des questions ?
Salut Jean-Guy. Salut. Ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu. Ça fait bien, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas, dès que j'ai quitté les jardins de cocagne de Mâcon. Donc, je voulais te demander, dans ce souci d'essaimage que le réseau peut avoir, est-ce que vous avez déjà, probablement, peut-être ou peut-être pas, pensé à cibler un public qui commencent à être de plus en plus nombreux. Ce sont les gens qui sont les victimes du monde du travail. On parle beaucoup de burn-out, on parle beaucoup de gens qui perdent le sens. Or, il me semble que les jardins de cocagne sont un lieu où, entre autres, on retrouve du sens. Et qu'à partir de ce moment-là, dans cet essaimage-là, pourquoi ne pas utiliser l'outil jardin, mais aussi avec un accompagnement peut-être un peu plus pointu, mais pour ce public-là qui déborde maintenant les entreprises.
Oui. Alors, on ne le fait pas en tant que tel, mais quelque part. Puisque tu viens de Mâcon, tu sais très bien à un moment donné que des jardins pouvaient accueillir tout à fait d'autres types de publics. Et en particulier, si je ne m'abuse, il y avait des personnes handicapées et vieilles qui venaient régulièrement sur le jardin, ce jardin-là, bosser quelques heures par semaine, pas tant pour produire, mais plutôt à un moment donné pour participer, pour créer du lien avec les gens. Après, on a été contacté aussi par des grandes entreprises. Et quelques, je ne pourrais pas le comptabiliser, mais je pourrais dire qu'il y a 15 à 20 personnes aujourd'hui qui étaient dans des situations difficiles dans des grandes entreprises, et on a signé des conventions avec ces grandes entreprises pour qu'ils finissent leur carrière dans des jardins de cocagne ou dans nos équipes. Voilà. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tous les cas, pour le moment, on est en train de réfléchir. Alors, il y a aussi, je n'ai pas eu le temps de signaler, d'autres types de publics qui sont abordés, puisqu'on a ouvert le premier jardin de cocagne pour personnes handicapées mentales en Bretagne. Et qu'en l'occurrence, pour ce type de ce qui est compliqué pour les pouvoirs publics par rapport à ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, la situation, le burn-out, n'est pas intégralement reconnu comme un handicap particulier. Et pour les cas administratifs, c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait tous qu'il y a des gens qui sont en train de se griller totalement au niveau de l'emploi, etc., et qui vont vraiment pas bien, etc. Et puis, en même temps, on organise de plus en plus dans beaucoup de jardins des séances que les Américains appellent de team building. C'est quoi ce machin-là ? C'est des entreprises ou des cadres d'entreprises ou des représentants des équipes d'entreprises qui viennent passer des journées dans les jardins de Cocagne. Et ça provoque énormément de trucs incroyables. D'abord parce que ils se méfient un peu quand on est un grand cadre d'entreprise. Qu'est-ce que je vais aller foutre dans un machin ? Je vais tout crotter, on va me mettre des bottes, je vais planter des radis, je vais être à côté de gens en insertion, mais ils sont dangereux, ces gens-là, etc., etc. Et en fait, c'est devenu une technique de management qui fait que beaucoup de jardins qui commençaient à le faire sont totalement débordés par le type de demande. Parce que le gros problème de grosses boîtes et de grosses entreprises aujourd'hui, c'est de manager leurs équipes. Et manager en particulier, moi je suis bien placé pour le savoir, parce qu'on a beaucoup de jeunes dans mon équipe, manager des jeunes générations qui n'ont pas du tout les mêmes formes de militance qu'on a pu connaître ou avoir, mais qui sont remplis de valeurs au moins aussi importantes que celles qu'on avait. C'est pour ça que je dis à mes copains vieux cons qui sont toujours en train de rabâcher qu'ils n'ont pas de valeurs, qu'ils n'ont pas de machin, ils en ont bien d'autres, ils en ont peut-être même plus. Elles ne se traduisent pas tout à fait de la même manière. En l'occurrence, il y a des chefs d'entreprise qui m'ont expliqué qu'aujourd'hui, s'ils n'arrivaient pas, donc c'est ce qu'on a appelé, alors parfois c'est vu comme quelque chose d'assez bidon, hein, de la responsabilité sociale ou responsabilité sociétale des entreprises, mais il y en a quelques-unes qui commencent à faire un truc extra assez bien là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment je vais donner à mes collaborateurs véritablement du sens, leur donner quelques jours par an pour qu'ils puissent bosser dans une boîte comme un jardin de cocagne, par exemple. Eh bien ça, ça provoque énormément de choses positives auprès des salariés, qui fait qu'à un moment donné, ils ne peuvent... Ils ne sont pas dans une boîte du CAC 40 ou le matin. Parce que certaines boîtes, c'est ce que j'expliquais à certains patrons, j'ai dit, attendez, pardonnez-moi, moi je viens du social, j'ai toujours fait des trucs particuliers, etc. J'ai toujours été dans l'économie sociale et solidaire, etc. À un moment donné, vous me mettez dans un mec comme moi, vous me mettez dans une boîte, puis vous m'expliquez, faut bosser plus, lève-toi plus tôt, vas-y, pour que les fonds de pension américains soient plus riches, moi ça ne me fait pas sauter au plafond, quoi, comme sens. Donc à un moment donné, il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de redonner du sens autrement. Maintenant, après, j'ai un jardin qui m'a parlé de ça et qui réfléchit éventuellement, et puis avec j'en discutais avec quelqu'un de la mutualité sociale agricole ou dans quelques grosses entreprises, on pourrait être amené à réfléchir, et un grand groupe de AG2R La Mondiale, pour ne pas le nommer, qui s'occupe beaucoup de seniors et de gens qui sont dans une situation inconfortable ou de burn-out dans les entreprises, comment on pourrait développer des nouveaux types d'activités pour pouvoir aider ces gens-là à mieux finir leur carrière.
Bonjour à tous. Alors, j'aurais une question par rapport à Fleur de Cocagne, plutôt. Si on voit assez bien comment les encadrants jardiniers sont formés ou peuvent être formés, via le BPREA en maraîchage bio par exemple, comment sont formés ceux qui produisent les fleurs ? Vous voyez, parce que c'est un autre métier, d'une certaine façon. Oui, et puis j'aurais une deuxième question, c'est quelles fleurs vous produisez ? Comment vous choisissez les fleurs que vous produisez ?
Alors, je commence par la deuxième. On a commencé généralement par un plan de culture qui s'est dit, d'abord, il nous faut des fleurs toute l'année. Alors, quelles fleurs ? Il y a des fleurs de saison, puisqu'on n'a pas de serre chauffée. On ne va pas surchauffer des serres pour faire pousser des fleurs. Donc, voilà. Donc généralement, on a trouvé un plan de culture, on appelle ça, avec des fleurs jusqu'à Noël. Par contre, en ce moment, c'est un peu la galère. On en parlait avec Véronique tout à l'heure, sur janvier, février, mars, on n'a pas trouvé encore les bons ressorts pour faire pousser des fleurs, etc. Donc on en profite pour faire des travaux d'entretien, on fera autre chose, etc. Mais d'avril jusqu'à décembre, on arrive à faire pousser des fleurs. Voilà. Après, on leur a donné plein d'autres caractéristiques. Les gens qui vont utiliser ces fleurs ne sont pas des professionnels. Donc les tiges qui seraient trop fragiles, etc. Et puis en même temps, une fois qu'on avait fixé tout ça, on a trouvé une exploitation à Avrainville, dans le sud de l'Essonne. Vlatipak, c'était une exploitation de roses. Donc on s'est retrouvé avec 13 000 rosiers, avec des variétés très anciennes et odorantes que tout le monde cherche et qui étaient en train d'oublier, d'être foutues dans cet endroit-là. Et là, on s'est aperçu que, ben, on s'est dit, on va quand même travailler ce capital rose. Et en fait, la rose est une diva particulièrement complexe qui a besoin de beaucoup de maquillage, de pesticides, d'insecticides, de machin, etc. Donc, il a fallu faire un gros travail parce que, très concrètement, techniquement, et ça répond aussi à la première question, c'est quand on a dit aux gens de l'INRA, aux gens d'AgroParisTech, etc., comment vous pouvez nous aider à produire des fleurs en bio, ben, ils étaient dans la merde jusqu'au cou parce que personne ne l'avait jamais fait. Donc, on a fait de la culture de pucerons pendant 2 ans, où nos roses étaient beaucoup plus couvertes de pucerons, etc. Et là, avec des méthodes agronomiques, des méthodes de sélection, des méthodes... L'année passée, ça a déjà été nettement mieux. Ils ont produit des très, très, très belles fleurs. Parce que si vous voulez, la différence avec les légumes, le légume et la fleur, une pomme de terre ou une carotte qui serait un peu abîmée, ou qui a une excroissance ou un truc comme ça, tout le monde s'en fiche. On le met même en valeur aujourd'hui. Il y a même des supermarchés qui vont vendre plus cher des légumes... qui est moche, comme ils appellent. Tandis qu'une fleur, elle ne supporte rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, une rose qui aurait des pétales qui seraient tachés ou abîmés, etc., c'est très, très compliqué d'imaginer de faire un bouquet avec ça. Donc, on affine, on a le travail de terrain, le travail de sélection des fleurs, un plan de culture, et c'est comme ça qu'on a procédé dans les jardins de Cocagne. Aujourd'hui, s'il y a 80 légumes qui tournent 52 semaines par an pour en avoir 4 ou 5 par semaine, il n'y avait personne qui nous a expliqué comment faire. J'ai cherché dans le monde entier, du côté des Japonais, des Américains, et on est les premiers à avoir fait un logiciel qui permet de former tout ça. Eh bien, on procède, dit, par tâtonnement et expérimentation. C'est pour ça aussi que c'était vachement intéressant dans notre organisation, que des gens à Lyon, que des gens à Brest, que des gens à Lille ou des gens à Marseille soient en lien, en réseau, pour expliquer tout ce qu'ils avaient fait, comment ça marche, la carotte qui fonctionne bien dans le sud, la patate qui fonctionne bien dans le nord, etc., etc. Et bien là, on est en train de faire un petit peu la même chose pour la fleur. Et donc, on a embauché 2 encadrants techniques qui sont très bien formés, mais à la fleur conventionnelle de l'école d'Angers, etc. Je crois que oui, c'est ça, l'école d'Angers, qui est, à ma connaissance, une des meilleures écoles en horticulture en France. Et ces gens-là, avec nous, et bientôt, maintenant, avec des chercheurs, AgroParisTech commence à s'intéresser. C'est pas l'INRA dans la fleur, ça s'appelle, je sais plus comment. Tu te rappelles, Véronique, le nom ? Voilà, c'est l'INRA. Ils vont venir avec nous et ils commencent à s'intéresser à cette question-là. Parce qu'il y a un marché qui commence. Et donc, je parlais de signaux faibles tout à l'heure. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe du côté ouest américain, San Francisco, etc., et on a notre ancienne chargée de développement qui habite là-bas aujourd'hui, qui nous envoie des informations toute la journée. Et en l'occurrence, on sent bien qu'il y a un mouvement qui est en train de se passer là-bas, où à San Francisco, la plupart des gens ne veulent plus acheter des fleurs qui viennent de l'autre bout de la planète, produites dans des conditions n'importe comment. Et donc, ces petits mouvements-là sont en train de s'opérer. Nous, on est en train de le faire en France. On vient de repérer des gens qui le font à Londres et en Écosse, etc., etc. Eh ben, on va essayer de se rassembler. Mais je pense que on est dans un moment où les gens vont commencer, comme ils ont réfléchi, à changer de mode de consommation des légumes de saison, en bio, locaux, etc. Je pense qu'à un moment donné, quand on aura pris le temps de développer cette activité-là, le temps de le faire connaître, le temps de le communiquer, beaucoup de gens vont essayer de réfléchir aussi si j'achète un bouquet de fleurs et pourquoi je l'achète. Parce que ce que je ne vous ai peut-être pas dit, c'est que le nôtre en bio, local, machin, etc., il est vendu d'ailleurs... Il est vendu moins cher que ceux qui sont achetés sur le marché. Ce qui est une connerie, il va falloir qu'on s'aligne. Mais en l'occurrence, il n'y a pas à entendre dans la fleur bio aujourd'hui, et puis quoi encore des fleurs bio machin, elles se vendent exactement au même prix que les autres fleurs qui sont produites dans des conditions exécrables. Mais vous parliez du BPREA. Le BPREA, on a formé des maraîchers pendant des décennies. Puis après, on s'est dit, ben, il faut en former à l'agriculture. Là, je pense que des grandes écoles comme Angers vont commencer à s'intéresser. Et si la production de fleurs naturelles, alors je ne sais pas si ce sera en bio, mais en tous les cas, de fleurs naturelles, je pense que c'est un mouvement qui est en train de démarrer.
Oui, j'aurais aimé savoir à peu près sur 100 paniers, disons, quel était le coût de la recherche, enfin du fonctionnement de la structure nationale pratiquement.
Comment fonctionne le réseau national?
En pourcentage, combien ça représente pratiquement le fonctionnement au niveau national de la recherche? Enfin, est-ce qu'on peut le chiffrer? Enfin, en pourcentage ou je sais pas. Enfin,
nous aujourd'hui, on a. Alors, quand on dit qu'on fait de la recherche et développement, on a essayé de trouver de l'argent pour aider, parce que nous, on n'est pas des chercheurs universitaires. On est des gens qui expérimentent. Quand je vous disais Dinan, Fleur de Cocagne, etc., c'est des vraies exploitations, des vraies entreprises. Donc, on sait qu'ils prennent tous les risques et qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés. Donc, on a monté avec la NEF et le Crédit Coopératif des livrets d'épargne que des gens comme vous et moi peuvent prendre si vous avez un peu d'épargne. La seule différence, c'est que, bien que l'épargne aujourd'hui, elle ne rapporte pas grand-chose, c'est des sortes de livrets A, mais ce pourcent que ça vous rapporte, si vous nous le donnez, nous, on vous donne un reçu fiscal et vous pouvez le déduire des impôts. Donc il y a des milliers de personnes en France qui ont décidé, parce que consommer différemment, c'est une chose, mais épargner différemment, comment circule son propre argent. Et donc ça nous a rapporté... ça nous rapporte au niveau national aujourd'hui 200 000 euros. Et ces 200 000 euros, la moitié sont mis dans la recherche et développement, ce qui nous permet d'aider des structures et de les subventionner pendant un peu plus pendant un an ou deux, parce qu'on sait très bien quand elles sont en train de se battre avec des pucerons, elles font pas de chiffre d'affaires, quoi. Les fleurs en particulier. Au même titre qu'à Dinan, la première année a été compliquée, il y a eu des conditions climatiques un peu difficiles. Vous me direz de la pluie en Bretagne, on aurait pu s'en douter, mais là particulièrement, c'était particulièrement difficile. Là, il a fallu retravailler sur des variétés, etc. Aujourd'hui, on est capable de doter un petit peu cette recherche et développement d'argent. Et puis après, il y a des tas de gens au titre des pouvoirs publics et au titre de fondations d'entreprises. On leur dit, ben, si vous voulez nous aider, on aimerait beaucoup que vous nous aidiez sur cette recherche et développement. Donc tous les deux mois, il y a une commission de gens qui s'occupent de tous les projets de recherche et développement qui se réunit et on essaie de voir comment on peut attribuer un peu d'argent à ces gens-là, bien entendu, en étant totalement transparent et en acceptant le principe de l'évaluation. Dinan, quand il vient demander du fric, voilà, il amène son compte d'exploitation, il amène son bilan, on étudie tout ça, puis on regarde si ça fonctionne. Mais en l'occurrence, on essaie de doter d'un petit peu d'argent ceux qui prennent tous les risques pour les autres pour l'avenir.
Oui, j'aurais une autre question concernant... est-ce qu'il y a des migrants qui participent au Jardin Cocagne? Enfin, comment...
Les migrants?
Les migrants, oui.
Alors justement, j'ai un très beau projet. J'ai une jeune fille qui est venue me voir il y a 3 semaines... parce qu'il y a un magnifique projet qui fonctionne en Angleterre aujourd'hui et qui s'appelle Bread and Roses, du pain et des roses. Du pain et des roses, c'est une chanson militante anglaise, américaine. Et en fait, ils ont monté un truc, et en fait, ils ont monté un programme autour des fleurs. Ils achètent des fleurs pour le moment. Et ils vont dans les camps de réfugiés pour que les femmes, essentiellement les femmes, puissent avoir une activité rémunérée. C'est-à-dire qu'on achète des fleurs, elles font des bouquets, puis ensuite ces bouquets sont commercialisés comme étant les bouquets qui viennent... Voilà. Donc ils ont monté ce projet qui s'appelle Bread and Roses. Et en fait, c'est deux jeunes filles qui ont la tête bien faite, etc. Et en fait, il y en a une qui revient à Paris parce qu'elle habite là. Et en fait, on va essayer de regarder ce que l'on peut faire pour ça. La seule difficulté qu'on va avoir, nous, on a les fleurs, on a les jardins, ils peuvent les produire, et puis des réfugiés, il y en a partout. La seule chose qu'on va demander au pouvoir public, c'est est-ce que vous nous donnez l'autorisation de le faire? Parce que j'ai dirigé des centres d'hébergement pendant des années. Donc j'ai accueilli tous les flots du monde entier, des Afghans, des Ghanéens, du Sri Lankais. Chaque fois qu'il y avait une merde dans le monde, boum, il y en a quelques-uns qui débarquaient, etc. À l'époque des années 80, 90 et même au début des années 2000, on pouvait tout à fait accueillir quelqu'un qui n'avait pas de papier, rien du tout. il venait au centre d'hébergement, on allait à la préfecture avec lui, il avait un papier, un droit d'existence, il pouvait travailler, vivre, etc., ce qui ne voulait pas dire qu'il pouvait rester en France. Mais l'OFPRA disait, pendant quelques mois, il a le droit de rester là au centre d'hébergement, il a le droit de travailler, il a le droit de... Voilà, il a un papier pour ça. Et si nous jugeons qu'il doit retourner dans son pays, ben ils le foutront dehors, si, voilà, ou alors il pourra rester. Voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus ça. C'est qu'on accueille des gens. Et c'est ça qui est terrible dans ces milieux-là. C'est pourquoi on accepte des gens qui n'ont pas le droit d'exister. Quelque part, je comprends mieux quelqu'un qui me dit « je ne veux pas les voir, ils ne passent pas la frontière », parce qu'au moins ça a le mérite d'être clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, en l'occurrence, en Angleterre ou en France, on a des milliers de personnes qui sont là, qui n'ont pas de papier, qui ne peuvent qu'errer, machin, etc., qui, en attendant leur instruction de l'OFPRA, enfin de savoir est-ce qu'ils auront le droit officiellement de rester en France ou pas, il se passe des 8 mois, 1 an, où ils n'ont le droit de rien faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois ça en région parisienne toute la journée, je ne sais pas comment ça ici. Sur tous les parkings qui sont en banlieue, il y a des mecs du monde entier qui sont là et qui bossent au black. Dès que vous faites un projet, vous voulez un carreleur, vous voulez des menuisiers, etc., on fait son marché à Paris. On va chercher des gens comme ça, voilà, on les sous-paye, etc., etc. Parce qu'ils n'ont rien. Mais les femmes, elles ne peuvent pas aller sur des parkings à 5 heures du matin se proposer comme carreleur ou boulot, ou je sais pas quoi. Donc, en l'occurrence, ce qu'elles avaient très bien vu, ces deux jeunes filles à Londres, c'est que ces femmes, elles dépérissent totalement. Elles sont là, dans une culture très différente, dans un centre d'accueil où elles n'ont pas le droit de sortir. Et en l'occurrence, ben, ce vecteur de faire des bouquets de fleurs et de les confectionner, etc. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire ça, le développer dans les jardins de Cocagne. Mais là, en l'occurrence, on va faire comme on fait toujours d'habitude. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, parce que c'est beaucoup trop long, les premiers jardins de Cocagne, c'était interdit de les faire en France. Et on les a fait. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est pas que je cherche à être dans l'illégalité permanente. C'est que la loi, il faut toujours la bousculer. Si vous ne lui mettez pas des coups de pied dans le cul, vous n'avez rien le droit de faire. Rien. Donc, en l'occurrence, nous, on voulait utiliser des contrats aidés dans les années 90 dans le secteur de l'entreprise. On n'avait pas le droit. On a expliqué qu'on comprenait juridiquement qu'on n'avait pas le droit. Mais dans l'esprit de la loi, s'occuper d'agriculteurs ou de gens en difficulté, de leur donner un boulot... je sais faire avec les pouvoirs publics. On demande des expérimentations. On leur dit... Ne changez pas la loi. Acceptez l'idée qu'on le fasse pendant 6 mois, puis on teste le truc, puis on verra si ça marche ou ça marche pas. Voilà. Donc on va tenter cette expérimentation-là. Mais en l'occurrence, le problème, et puis vous a pas échappé qu'on est dans une année de présidentielle et de législative, que le problème de l'immigration coupe la France en deux. Mais en l'occurrence, qu'elle coupe, quoi qu'on en pense, d'un côté comme de l'autre, moi, je me mets dans une version plus humaine, point. Si des gens sont là dans une situation désespérée, je préfère qu'ils aient une activité qui rende un machin, qui gagne leur vie et qui vivent ça honnêtement, plutôt que d'être largués dans des endroits, des zones de non-droit, qui ne peuvent engendrer que... Ben, je sais pas, vous êtes à Calais dans un espèce de truc, vous avez qu'un buisson pour habiter pendant des mois, qu'est-ce que vous faites si vous avez faim? Si vous voyez un bout de pain, vous le prenez. Enfin, je sais pas... Et alors que si on pouvait dire à ces gens-là, mais mon petit gars, tu peux tout de suite travailler, tu peux machin, etc., puis on va étudier la question, je pense qu'on est dans une dimension simplement plus humaine. Voilà. On va essayer de le faire. Donc, je sais pas, suite au prochain numéro, l'année prochaine, je dirais, si ils ont accepté l'idée qu'on puisse, des gens, et particulièrement des femmes sans papier. Et puis en plus, c'était génial avec notre projet de fleurs de cocagne, parce qu'en fait, on pouvait leur amener des fleurs locales et bio, elles les confectionnent, et puis ensuite, elles pourraient gagner un peu leur vie avec ça.
Et dans le cadre, justement, des élections, est-ce que vous avez pu contacter des présidentiables pour leur parler de ces projets?
Bien sûr, on n'arrête pas.
Mais il y en a qui ont répondu? Favorablement ou pas?
C'est-à-dire qu'en fait, quand on est organisé en réseau national, alors voilà ce qui se passe. J'ai été un peu à l'initiative d'une démarche près des autres réseaux à Paris. dont plein sont présents ici, qui sont soit des réseaux de mouvements d'idées, etc. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les présidentielles arrivent ? Les réseaux, les organisations, on est tous là, on se rassemble, puis on dit, on va poser 8 principes ou 10 idées qu'il faut absolument que les présidentielles puissent écouter. Mais comme on est sans organisation qui puisse 10 idées, ça fait 1000 idées. 1000 idées, un présidentiel, il n'a rien à foutre. Déjà que quand il se présente au président, ils nous promettent un ou deux trucs qu'ils ne font pas. Alors vous imaginez qu'ils vont faire des trucs... Donc, en l'occurrence, c'est comment... Non, mais moi, c'est pour ça qu'on est, dans... On appelle ça... Nous, on s'appelle des entrepreneurs sociaux. Dans l'entrepreneuriat social, on est très pragmatique. On ne demande pas l'autorisation, on fait. On a une idée, on trouve des alliés, on trouve de l'argent, on trouve des employés et on le fait. Et cette logique de la preuve fait qu'à un moment donné, après les présidentielles, c'est eux qui demandent à venir visiter vos trucs. Donc là, vous en profitez pour leur dire, si vous nous donniez plus de moyens dans l'agriculture, il y aurait plus de gens en bio, si on faisait si ces immigrés, soit vous leur dites non à la frontière, soit vous leur dites oui, mais si vous leur dites oui, faites-les vivre décemment dans ce pays, enfin voilà, ou renvoyez-les chez eux, enfin voilà. Donc, on s'est regroupés, et puis on essaie de passer une ou deux idées fortes plutôt que d'en passer 50 chacun. Parce que ça va beaucoup, beaucoup se diluer autrement. Il faut que vous parliez dans le...
Il y a quand même des candidats qui ont écrit leur programme, donc j'en ai lu un ou deux, et il y en a quand même où je retrouve vos idées dedans. C'est pour ça que je vous demandais
beaucoup de présidents, enfin... Beaucoup de gens qui se présentent à la présidentielle ont contacté, c'est comme ça qu'ils font tous, ils ont des cabinets et ils contactent des gens comme nous sur un sujet précis. Dans l'agriculture bio, qu'est-ce que vous aimeriez comme préconisation ? Donc comme on avait travaillé ça avec la Fédération nationale des agriculteurs bio, nous, notre réponse était toute prête. Dans la bio, on aimerait telle chose, telle chose, telle chose. Dans l'insertion, on aimerait telle chose ou telle chose. Voilà. Donc les choses sont relativement prêtes. Après, c'est repris, écrit. Mais si vous voulez, je suis un vieux loup de mer maintenant. Donc, des présidents et des ministres et machin, depuis 1973, je m'en suis tapé quand même quelques-uns, quoi. Donc je sais très très bien que ça, c'est une phase. Mais après, il va falloir rentrer dans une deuxième phase quand celui ou celle, j'espère que ce sera celui qui sera élu. Oui, je crois que c'est la seule solution, c'est le seul truc qu'on peut dire aujourd'hui sans que les féministes vous rentrent dans les mirettes, parce qu'on ne préfère pas que ce soit une présidente en ce moment. Alors voilà, donc ceux-là, après, ben, il va falloir faire tout un travail, parce que c'est très compliqué. Après, se met en place, faire voter des lois. Ça passe par l'Assemblée, ça passe par le Sénat, ça fait des allers-retours, il y a des lobbies dans tous les sens, etc. Donc, évidemment, quand vous êtes un agriculteur bio et que quelqu'un se présente à la présidentielle, bien entendu que vous pouvez faire des tas de propositions dans l'agriculture bio. Mais le problème, quand vous connaissez bien le monde de l'agriculture, c'est pas au ministère que ça se passe. Voilà. Donc, à un moment donné, les lobbies, s'ils ont décidé que ça passait pas, ça passait pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est très simple. Par exemple, je veux parler juste un peu de bio une seconde. Pourquoi la France était en avance sur l'Allemagne et puis d'un seul coup, elle s'est fait dépasser par l'Allemagne ? On m'explique que les Allemands seraient plus écolos que les Français. C'est une connerie. Quand les Verts ont été au pouvoir en Allemagne, enfin, quand ils pesaient lourd, ils n'ont pas nommé un ministre de l'Environnement, ils ont pris le ministère de l'Agriculture. Donc ils ont pris simplement des subventions de la PAC qui subventionne aujourd'hui n'importe quoi, et surtout ceux qui ont beaucoup d'argent dans l'agriculture, et ils ont dit on va aider des gens dans la période de conversion. Alors, la conversion c'est quoi ? Si vous décidez, vous êtes un paysan, puis vous décidez de passer en bio, vous avez une période pendant 2 ou 3 ans, vous êtes obligé de pratiquer le cahier des charges de l'agriculture bio, mais vos produits ne sont pas reconnus comme des produits bio. Donc vous avez tous les emmerdes de nouvelles procédures pour apprendre la bio, en même temps que, voilà, en Allemagne ou dans certains pays, et c'est ça qui vous faites ça en France, il y a des milliers d'agriculteurs qui passent en bio. Si vous leur dites on vous aide pendant la période de conversion, ça veut dire on vous donne des aides pour vous garantir que ça fonctionnera à peu près bien pendant ces 3 ans-là, puis après vous vivrez de votre truc. Et ce qui est génial dans le maraîchage bio, c'est que les maraîchers bio aujourd'hui en France n'ont quasi pas de subventions agricoles. Si on en a, mais... Je m'occupe d'un jardin particulièrement. Vous savez ce qu'on fait avec la prime ? On boit un coup à Noël. Voilà. C'est pour vous dire qu'on boit peut-être beaucoup, mais enfin, quand même. On boit... Non, c'est ridicule. Non, parce que vous savez que ceux qui tiennent l'agriculture en France, ils ont décidé que la subvention s'accordait à l'hectare. Or, un maraîcher, il a très peu d'hectares. Un maraîcher familial, il a 1,5 hectare, 2 hectares. Et donc, à côté de ça, le céréalier, lui, il a 800 ou 900 hectares. Donc, vous voyez, la prime multipliée par 1,5 ou multipliée par 8 ou 900, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, il suffirait de changer cette règle du jeu. Et puis, à un moment donné, un jardin de cocagne, c'est 4-5 hectares en moyenne. C'est une entreprise qui fait travailler 30 personnes. Un céréalier qui est tout seul sur 600 hectares, il a 100 fois plus d'argent que celui qui a créé 30 emplois. Donc il y a d'autres critères qu'il faut prendre, des critères naturels, des critères de création d'emplois, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est cette idée-là qu'on fait passer depuis des années, mais qui ne passe pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je vais en poser une. Les jardins, à peu près, ils sont tous structurés de la même façon ou pas en France ? Comment ça s'organise, la structure générale d'un jardin ?
C'est une association, loi 1901,
ouais.
Avec un conseil d'administration. Ce conseil d'administration, c'est des gens comme vous et moi qui peuvent y participer. On essaie qu'il y ait des compétences sociales, on essaie qu'il y ait des compétences d'entreprise, on essaie qu'il y ait des compétences agricoles. On aime bien mixer un peu les compétences dans nos conseils d'administration. Puis après, il y a une équipe qui va être embauchée, généralement un poste de directeur ou directrice, parce qu'il y a à peu près la parité en France, des encadrants techniques. Alors là, c'est nos maraîchers professionnels qui sont embauchés comme chefs d'équipe, parce qu'on embauche des gens qui ne connaissent rien, donc il faut bien avoir un professionnel qui puisse manager tout ça. Et puis, un truc aussi qui coûte cher, mais auquel on tient beaucoup, c'est qu'il n'y a pas un jardin de cocagne qui n'a pas d'accompagnateur ou d'accompagnatrice sociale. C'est-à-dire que les gens sont aidés, bichonnés, on essaie de les remettre à niveau, on essaie de les former, on essaie de leur apprendre un métier, mais en même temps, on essaie de régler tous les problèmes qu'ils pourraient avoir. Parce que quand on récupère quelqu'un qui dort à la rue ou dans une voiture, ben vous ne pouvez pas vous réinsérer quand vous dormez à la rue ou dans une voiture. Donc il faut régler le problème de logement en même temps que vous commencez à faire retravailler les personnes. Donc, c'est toujours 5 fonctions dans un jardin. Direction, encadrement technique, accompagnement social, comme toutes les boîtes du monde, un staff administratif, secrétaire, comptabilité, etc. Et puis ce qu'on appelle le staff commercial. Alors, chez nous, ça s'appelle un animateur de réseau d'adhérents, puisqu'on n'a pas à chercher des clients tous les semaines. On les cherche en début d'année, on a tous nos clients de l'année. Mais ces clients, il faut aussi les bichonner. Et ce qu'on aime bien, c'est qu'à la fin de l'année, ils soient contents de réadhérer l'année d'après. Donc on travaille beaucoup sur ces systèmes de fidélisation en ayant beaucoup de liens avec eux.
Et si je veux devenir cliente, justement, on fait comment ?
Alors si vous voulez devenir cliente, il y a le stand de combien, vous m'avez dit ? Ils sont tous là.
On est U301.
Voilà, vous allez en U301 et vous coulez. Non, et voilà, donc les jardins de cocagne de la région... sont présents et donc ils vont vous donner vous verrez ceux qui sont le plus proches de chez vous et puis chacun aussi des logiques, soit vous pouvez aller chercher les paniers directement sur le jardin, soit ils ont développé aussi ce qu'on appelle des dépôts, c'est-à-dire sur tout le territoire à 10-15 km à la ronde ils peuvent amener des légumes dans des entreprises, chez dans des commerces, chez des particuliers, etc., etc.
Juste une petite question, mais en aparté. Hein. Moi, j'ai une passion pour les roses et je vais souvent au parc de la Tête d'Or. Donc, est-ce que vous avez fait un petit projet avec le parc de la Tête d'Or du 6e ?
Non.
C'est vraiment une petite question, hein. Mais je sais que c'est pas la même.
Non, puis si vous voulez, on essaie d'être des gens. On est un peu fous dans les idées qu'on développe en permanence, mais on essaie d'avoir une folie canalisée. C'est-à-dire Fleur de Cocagne, nous, on se donne encore 2-3 ans pour bien peaufiner le sujet en région parisienne. Et si ça marche, si on a réglé les problèmes, tous les problèmes techniques, économiques, sociaux, etc., après, on va proposer d'en monter dans plein d'endroits. Mais pour le moment, non, il n'y a pas de projet sur Lyon.
Oui, je disais juste que on travaille quand même, enfin en tout cas Fleur de Cocagne travaille avec un rosieriste de la région, puisque c'est la roseraie Félix qui crée des variétés de roses et puis qui en produit au sein d'Eddy Rose, qui a aidé à trouver des variétés qui soient résistantes et qui n'aient, si possible, pratiquement pas besoin d'être traitées. Puisqu'en bio, on traite malgré tout un peu, mais pas avec des produits issus de la chimie. Donc il y a quand même un lien avec les rosieristes lyonnais, puisque Lyon est une belle place pour la rose.
Moi, j'avais deux questions. La première, c'est combien de temps les gens restent chez vous, puisque vous faites un accompagnement social, c'est pour les remettre dans une vie normale. Et la deuxième chose, c'est quels sont vos liens avec des projets à l'étranger? Je pense notamment à du maraîchage qui peut se faire en Afrique, dans certains villages, pour développer des choses.
Alors, je me permets juste de dire, on a 5-10 minutes pour répondre. Il n'y a aucun souci.
La première, c'était
Combien de temps les gens restent en moyenne, enfin,
donc, ils sont dans des contrats à durée déterminée qui sont fixés par les pouvoirs publics et qui ne peuvent pas excéder 2 ans sauf dérogation. Donc la réponse est que les gens peuvent rester 2 ans. Mais notre évaluation, c'est que les gens, je viens de la lire là à l'instant en descendant de Paris, les gens restent 1 an. Voilà. C'est 1 an en moyenne. Donc sur des milliers de personnes, ça veut dire que quelques-uns, en quelques mois, on a trouvé la solution. Et puis d'autres, au bout de 2 ans, on ne l'a toujours pas trouvé. Et en particulier les gens qui sont seniors, pas loin de la retraite, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Là, en l'occurrence, on demande de plus en plus de dérogations, parce que quelqu'un qui est largement abîmé, handicapé, désocialisé, et puis qu'à 59 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse un cadre sup en 2 ans? Moi, je ne sais pas, quoi. Voilà. Donc, en l'occurrence, on demande des dérogations pour pouvoir garder ces gens-là. Généralement, elles sont acceptées. Voilà. Et quant à la question sur l'étranger, et en particulier l'Afrique, c'est que nous, on accepte. On n'a pas la logistique nationale pour pouvoir envoyer des gens pour faire du bon travail dans tous les pays du monde. Donc, on s'assure toujours d'avoir des gens localement de confiance avec lesquels on va pouvoir s'appuyer. Voilà. Si on a fait quelque chose en Roumanie, c'est qu'on a trouvé ces gens-là. Si on a fait des choses au Québec, c'est parce qu'on a trouvé ces gens-là. Si on a fait des trucs au Japon, c'est qu'on a trouvé ces gens-là. Pour le moment, on a eu beaucoup de contacts en Afrique. Mais en l'occurrence, ça nécessiterait un travail d'investigation, puis des gens qu'il faut pouvoir payer pour aller là-bas de longs mois, parce que c'est des projets qui ne se montent pas comme ça. Et donc, en l'occurrence, on a à un moment donné collaboré avec des gens de chez Rabi, là, au Maroc, des choses comme ça, où on a donné un petit peu notre expertise technique de production de légumes bio, etc. Mais on n'a pas été porteur de projet plus loin là-dessus. On sait, pour le moment, sur tout le continent africain, on est plus en conseiller sur certaines opérations qu'à monter directement des jardins là-bas.